Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos nappées d'un généreux coulis rieur pour réunir donc le meilleur des deux mondes, le journalisme et la bonne humeur. Attention quand même qu'on n'aille pas croire que cette dite bonne humeur puisse nuire au sérieux qu'on est en droit d'attendre de journalistes professionnels tels que Céline Dacosta et Varrock qui demeurent constamment, même hors antenne, sur la brèche de l'info.
Ah, il est chouette ta combi. Oui, mais pour faire pipi.
Pour faire pipi, c'est chiant, c'est vrai.
Heureusement, debout les copains, c'est aussi la classe de Fabrice d'Almeida. Le monsieur histoire d'Europe 1 qui ce matin, à l'heure où la Chine fascine autant qu'elle inquiète, commémore un terrible événement, les 30 ans du massacre de la place Tiananmen.
Merci d'écouter Europe 1, nous sommes le mardi 4 juin. Et il est 6h, très bon réveil. 5h-7h avec Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut savoir de l'info de ce mardi 4 juin. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
L'avenir de General Electric à Belfort. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire était sur place hier. Il a demandé des assurances et annoncé la création d'un comité de suivi. Le site des impôts en surchauffe hier soir à quelques heures de l'échéance. Impôts.gouv.fr inaccessible. La date butoir pour faire sa déclaration est repoussée de 48 heures. Les deux derniers Français encore en lice hier à Roland-Garros, Gaël Monfils et Benoît Paire ont été battus. Place aujourd'hui au duel suisse Federer-Wawrinka. On y revient avec Jérôme Lacroix dans quelques minutes.
Europe 1.
Accueilli par des huées, Bruno Le Maire est aussi parti sous les sifflets des salariés de General Electric à Belfort. Principal site impacté par les suppressions de postes annoncées la semaine dernière, plus d'un millier. Le ministre de l'économie a rencontré les syndicats et les élus locaux. Il a dit vouloir obtenir l'assurance que ce plan social ne cachait pas de liquidation. Philippe Petit-Collin est délégué CFE-CGC. Il a pris la parole devant environ 800 salariés. Lors d'une assemblée générale, il a appelé à la mobilisation.
Il va falloir maintenir une pression énorme sur GE, sous le gouvernement, parce qu'on sent que c'est un sujet très chaud pour le gouvernement. Il va falloir maintenir la pression. Nous avons plein de moyens pour ça. La pression à travers les tribunaux, à travers les expertises, à travers les mobilisations citoyennes. Aujourd'hui, il va falloir monter en puissance pour pouvoir avoir des armes pour négocier. Si nous n'avons pas d'armes, nous allons droit vers la fermeture du site. Nous sommes déterminés, nous irons jusqu'au bout, nous aurons besoin de vous. Merci beaucoup pour votre soutien, j'espère que vous serez là demain, après-demain, encore après-demain. Le combat fait que de commencer. Merci beaucoup.
Propos recueillis par Arthur Mbaché pour Europe 1. Cet après-midi, le conseil d'administration de Renault se réunit. Les actionnaires vont devoir dire s'ils poursuivent ou non les discussions avec Fiat Chrysler. La semaine dernière, le constructeur italo-américain a proposé de fusionner. Il ne devrait pas y avoir de grosses perturbations à la SNCF malgré la manifestation des cheminots aujourd'hui à Paris. L'intersyndicale dénonce une absence d'avancée sur le futur statut un an après la réforme ferroviaire.
Panique hier soir pour ceux qui voulaient déclarer leurs revenus sur le site impots.gouv.fr.
Et oui, à 24 heures de la date limite, en principe ce soir minuit, la plateforme était momentanément en maintenance. Gérald Darmanin a annoncé un sursis de 48 heures aux contribuables. Les Républicains n'ont plus de chef depuis dimanche et visiblement personne ne se bouscule au portillon. D'ailleurs, les maires de droite sont très activement dragués par La République En Marche. Le député Thierry Solaire passe beaucoup de coups de fil depuis le départ de Laurent Wauquiez.
Depuis les élections européennes, on constate quoi ? Beaucoup de maires de droite modérée qui, au fond, déjà en privé depuis longtemps, disaient que ce gouvernement essayait de mettre en place des réformes courageuses que souvent ni la gauche ni la droite n'avaient eu le courage de faire depuis 20 ans, aujourd'hui se retrouvent dans cette situation de quitter les Républicains. Et on leur dit, nous, vous êtes les bienvenus, venez mettre votre énergie à reconstruire notre pays plutôt qu'à avoir des postures partisanes qui, au fond, n'ont pas beaucoup de sens.
Thierry Solaire au micro de Virginie Riva. Dans l'actualité également, l'Irak a condamné à mort hier 2 autres djihadistes français, 11 au total en une semaine. Sur Europe 1, nous avons aussi parlé de ceux qui ont choisi de rentrer en France, comme cette femme partie dans la zone irako-syrienne, puis revenue enceinte. Elle est en détention provisoire. Il y a 18 mois, elle a accouché en prison et risque aujourd'hui d'être séparée de son enfant. Elle demande à la justice d'être remise en liberté. Pierre de Cossette.
Elle est partie pendant 8 mois en 2017, pour un Syrien rencontré sur Internet, pas un membre de Daesh, mais d'un groupe rebelle islamiste. Quand elle rentre en France, cette femme est enceinte de 7 mois, garde à vue, mise en examen, puis Fleury-Mérogis où elle accouche. Aujourd'hui, seule solution pour garder son fils, être remise en liberté, son avocate Margot Durand-Pointclou.
Ce petit, qui n'est qu'avec elle depuis sa naissance, représente la dernière famille palpable qu'elle a pour des profils dont la dangerosité vraiment est théorique. Est-ce que le but, c'est de créer quelqu'un qui sera sans avenir, sans domicile fixe et qui n'aura finalement pas compris sa peine et qui aura été mal accompagné? Ou est-ce que c'est de réinsérer des profils qui sont réinsérables et qui ne sont pas très loin de ce retour normal à la société?
Il y a 3 mois, le juge antiterroriste en charge du dossier a accepté la remise en liberté de la mère avec une place dans un programme de déradicalisation. Mais la cour d'appel a dit non. Aujourd'hui, la justice doit réexaminer ce cas avec une urgence supplémentaire. Parce qu'il a 18 mois, le petit garçon ne peut plus être gardé en prison.
Pierre Decossette du service police-justice d'Europe 1. Au Soudan, au moins 30 personnes sont mortes alors qu'elles manifestaient devant le siège de l'armée à Khartoum. Une dispersion dans le sang qui a aussi fait des centaines de blessés. Condamnation de la communauté internationale. Un conseil de sécurité de l'ONU doit se tenir aujourd'hui.
Europe 1, il est 6h05.
Les écrans partout, tout le temps. Une mauvaise habitude à perdre.
Oui, selon une étude, un tiers des Français est scotché à son smartphone ou sa tablette systématiquement lorsqu'il est à table en train de manger. La moitié des 18-34 ans sont concernés. Illustration avec Aude Vernuccio pour Europe 1.
Qu'il s'agisse d'un déjeuner seul au bureau, d'un repas entre amis ou d'un dîner de famille, pour la moitié des 18-34 ans, il est devenu presque impossible de ne pas jouer sur sa tablette ou consulter son téléphone en mangeant. Exemple, à cette terrasse de café.
Si je suis seule, en tous les cas c'est sûr, mais s'il y a quelqu'un que j'ai une notification, un message, je l'ouvre tout de suite.
C'est devenu une habitude quoi, donc limite, il n'y a même plus de remarques vis-à-vis de ce comportement.
Avec des déjeuners de collègues, on peut être 10 à table et très rapidement je peux voir que 8 personnes sur 10 sont sur leur téléphone. Bah, je peux dire les gars, on peut se reconcentrer ensemble et on range le téléphone. Voilà.
Et pourtant 53% des sondés estiment que le repas est un moment de partage, mais ils n'arrivent pas pour autant à déconnecter, jusque dans l'intimité, constate le docteur Lovenstein, addictologue.
Quand on voit aujourd'hui des couples sur leur smartphone en permanence en train de déjeuner ou dîner, est-ce qu'ils n'ont plus rien à se dire? Ou est-ce qu'on est dans une addiction? C'est-à-dire que la personne avec son écran, elle est devenue tellement dépendante de son activité qu'elle ne développe pas ce lien social suffisamment.
Et pour garder ce temps d'échange à table, ce médecin recommande très simplement de mettre son téléphone en mode avion et de ne pas poser sa tablette près de son assiette pour éviter toute tentation.
Aude Vernuccio pour Europe 1.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann. Céline, dont vous vous demandez souvent quelle est la plus grande qualité, le sérieux, l'application, l'audace journalistique, la réactivité, non? D'après Céline Dacosta, son secret est ailleurs.
Elles sont bêtes tes bottines, hein?
Elles font l'unanimité.
Ok.
Eh oui, son teint caché était d'ailleurs.
Europe 1. Il est 6h07, Mathieu Noël.
C'est vrai qu'elles étaient belles ces bottines. À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire ce matin alors que la Chine est devenue une superpuissance influente et redoutée. Fabrice d'Almeida reviendra 30 ans après sur une des tâches de son histoire récente, le massacre de la place Tiananmen.
Bon allez à tous sur Europe 1. Il est 6h08, Mathieu Noël.
On fait un point sur la météo du jour, Céline. Le soleil est encore présent sur l'est du pays.
Oui, surtout. Et puis le sud-ouest également, hein, avec beaucoup de soleil. Là où ça va se gâter, c'est dans le nord-ouest. L'arrivée dès ce matin de nuages et des orages qui vont gagner en intensité cet après-midi, qui toucheront surtout la région centre, l'Île-de-France, la Haute-Normandie et les Hauts-de-France. Des orages localement forts avec de la grêle et de bonnes rafales de vent. Pour les autres, ça va rester calme et ensoleillé avec juste quelques coups de tonnerre sur les côtes basques et les Alpes-Maritimes. Le tout sous des températures très chaudes cet après-midi, jusqu'à 34 degrés à Besançon, il en fera 29 à Paris, puis ça va bien baisser demain après le passage de la perturbation.
Eva Rock.
C'est un 4 juin, alors c'était en 1666, qu'a été représenté pour la première fois Le Misanthrope, la pièce de Molière. À cette occasion, on avait envie de vous demander depuis ce matin, 5 heures, quel était le défaut que vous détestez le plus chez les gens, le truc qui vous énerve. Eh bien, vous avez été très nombreux sur Twitter à nous répondre, comme Olivier qui nous dit les odeurs nauséabondes, hein, parfum trop fort ou hygiène douteuse. Et puis Tara qui vient de nous dire ce qui m'énerve le plus chez les autres, c'est le manque d'empathie à l'égard des humains les plus démunis, ainsi que le manque de bienveillance envers les animaux, ceux qui mangent au cinéma, les hommes trop parfaits et que la durée de Debout les copains soit trop courte. Non, en fait, non, on va pas faire une heure de plus voilà, pour moins vous énerver.
Mais j'entends beaucoup cette remarque sur les hommes trop parfaits.
Ah oui,
et je dis, mais que voulez-vous que je fasse? Changer, je ne peux pas.
Ah oui, alors, trop parfait. Oui. Ça fait beaucoup.
Ouais, ça fait beaucoup.
Continuez à réagir sur Twitter.
Beaucoup
avec
de conneries surtout. Merci Eva. Merci.
Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
C'est un homme secret qui nous rejoint à présent. Une star qui fend rarement l'armure. On ne sait quasiment rien de Jérôme Lacroix. Pourtant, vendredi, au détour d'une conversation anodine, il offrait à ses fans une petite indiscrétion. Voici Scoop de Star.
De toute façon, à choisir, je suis plus ketchup que maillot. On est plus ketchup ou maillot?
À une époque, j'étais tellement maillot que j'en mettais même sur les pizzas.
Quelle jeunesse folle! Bonjour Jérôme Lacroix, on passe. Bonjour, si vous n'êtes pas trop ballonné par toutes ces années de pizza à la maillot, au Journal des Sports.
Et où sont-elles passées,
jamais, c'est vrai. On ne les voit pas, elles ont disparu. À la une, encore ratée pour les Bleus, caramba.
Oui. Et de trois éditions d'affilée de Roland-Garros, sans bleu du tennis en quart de finale, depuis Gasquet en 2016. Hier, Benoît Paire a flanché dans le cinquième set au moment d'écarter le japonais Nishikori, septième mondial. Gaël Monfils a été battu par Dominic Thiem, quatrième mondial, l'Autrichien beaucoup plus fort, vainqueur en trois manches, sans qu'il y ait vraiment eu de match. Mon fils, justement, dont on rebat les oreilles chaque année depuis 1983, Yannick Noah, etc. Mon fils dit, oh, ça va.
C'est agaçant, au bout d'un moment, les mecs sont plus forts, il faut arrêter de nous dire, ouais, attends, Nadal, il est plus fort que nous sur terre battue, il n'y a pas un mec qui va dire le contraire, quoi. Il y a un moment, on a tous envie de gagner Roland-Garros, bien sûr. On nous dit, les Français, ok, pas de problème, mais... Je ne vois pas non plus un autre pays gagner. Quoi.
Gaël Monfils avec Christophe Lamarre. Dès 14h, en premier sur le cours Suzanne Lenglen, un bon air suisse de revanche pour une place en demi-finale. Stan Wawrinka, 34 ans, 28e mondial face à Roger Federer, 37 ans, 3e mondial. Dernier affrontement à Roland-Garros 2015. Wawrinka claquait Federer en trois manches avant de filer cette année-là vers le sacre. Le vainqueur de ce match helvético-helvétique donc pourrait bien croiser la route de Rafael Nadal. En demi-finale, l'Espagnol affronte aujourd'hui le japonais Nishikori.
L'agenda très foot d'Emmanuel Macron.
Et oui, entretien avec le président de la FIFA aujourd'hui, mais aussi la remise aux Bleus, champion du monde de la Légion d'honneur cet après-midi à l'Élysée en récompense au sacre mondial. Et puis ce midi, direction Clairefontaine pour un déjeuner avec l'équipe féminine à trois jours du début du mondial en France. La gardienne Sarah Boisdi raconte ce qu'elle attend de la visite présidentielle.
C'est un compétiteur, un sportif, donc forcément, je pense que quand il regarde du foot ou qu'il regarde son équipe qu'il admire dans le foot, il aimerait qu'elle gagne. Donc voilà, il va nous donner des mots qui vont être importants, symboliques et on va essayer de ne pas le décevoir et aussi pas se décevoir nous-mêmes.
La jeune femme qui accuse Neymar de viol lâchée par ses avocats, selon cette nuit la chaîne de télé brésilienne O Globo, les magistrats pointent des contradictions dans les déclarations de la jeune femme. Elle leur a dit que la star du PSG l'avait violentée après une relation sexuelle consentie, mi-mai à Paris. Mais aux policiers, dans sa plainte, elle a décrit des faits est survenu comme un viol. Neymar, lui, est convoqué vendredi par la police pour avoir publié sur Internet des conversations intimes avec la plaignante, un contenu depuis effacé.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
Elle est à nouveau libre de courir le 800 mètres. Caster Semenya, le tribunal fédéral suisse, demande la suspension des règlements de la Fédération internationale d'athlétisme à l'encontre de l'athlète sud-africaine. Elle est hyper androgène, ça veut dire qu'elle sécrète naturellement beaucoup de testostérone. Trop, selon la Fédération internationale, qui estime que ça fausse la concurrence et veut lui imposer un traitement médical pour faire baisser ce taux, ce que refuse Semenya. Première victoire pour elle avec la décision du tribunal fédéral suisse, mais provisoire, cette décision, la bataille judiciaire est loin d'être finie.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et à présent, à l'heure d'annoncer notre chronique histoire, j'aimerais procéder à une petite mise au point avec Céline Dacosta. Céline, à quel moment, lorsque la direction vous demande, je cite, de dynamiser nos lancements en ayant recours à des formulations plus modernes, vous vous êtes dit, tiens, pour lancer la rubrique histoire, je vais chanter Fabrice d'Almeida façon Brigitte Bardot par Dayour Moreno.
Fabrice d'Almeida. Fabrice d'Almeida.
Alors, moderne non, mais finalement post-moderne, mais peut-être voilà, quelque ça. Part, oui.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice d'Almeida.
Bonjour à tous.
30 ans après le massacre de la place Tiananmen, le ministre de la Défense chinoise vient d'affirmer que le gouvernement avait alors pris une décision correcte contre les manifestants. C'est une réécriture de l'histoire.
Oui, mais rappelons qu'il y a 30 ans, jour pour jour, le 4 juin 1989, le général Wei Fenghe, ce ministre de la Défense, faisait partie des militaires qui ont réprimé le mouvement de protestation lancé par des étudiants un mois et demi plus tôt. Il voulait nettoyer la place Tiananmen où se concentraient les opposants. Une image est restée, rappelez-vous, un face-à-face entre un homme en chemise blanche et un char d'assaut. Seul cet homme empêche une colonne de chars de s'avancer. Il symbolise ce mouvement pour la liberté, cet espoir d'ouverture de la Chine que le monde a observé avec passion.
Mais tout s'effondre le 4 juin.
Oui, En fait, depuis le 19 mai, quand il a adopté la loi martiale, le leader chinois Deng Xiaoping a décidé d'employer la force. Il a limogé les partisans du dialogue dans l'armée et dans le parti. Le 4 juin, c'est l'offensive. Dès le lendemain, la place Tiananmen est vidée, bloquée. Les soldats ont tiré à balles réelles sur les civils. Plusieurs milliers de personnes sont mortes à Pékin et dans d'autres grandes villes où la contestation s'est déployée.
Et le Parti communiste continue d'ignorer cet événement.
Oui, il est interdit en Chine de mentionner le mouvement du 4 juin, d'où l'importance de le commémorer chez nous aussi. Cette action pour la liberté a été fondamentale et il faut aussi souligner que le régime communiste chinois ne regrette pas d'avoir fait tirer sur sa propre population qui manifestait pacifiquement.
Merci beaucoup Fabrice Almeida. L'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain, peu avant 6h15.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue, 2 heures d'actu et d'invités qui la font. Et à 6h20, on prendra la direction de nos belles campagnes. Même si Céline, pour les agriculteurs, le temps n'est plus à l'insouciance.
Fais la poule, tu verras, tu seras trop cool.
Mais non, fini la légèreté, les temps sont durs. Aujourd'hui en France, 6,5% de la population agricole a moins de 35 ans. Comment attirer les jeunes dans les territoires ruraux? Peut-on encore devenir agriculteur en France? À 6h20, nous recevons Arnaud Gaillot, secrétaire général des jeunes agriculteurs, dont le congrès national débute aujourd'hui à Rouen.
Un très bon réveil à tous, il est 6h16. Il est 6h19, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Si vous n'avez pas réussi à vous connecter sur le site des impôts hier soir pour déclarer vos revenus, ne vous inquiétez pas, le ministre des Comptes publics a annoncé un délai de 48 heures supplémentaires après des perturbations informatiques. Les cheminots manifestent à Paris aujourd'hui, CGT, UNSA, SUD et CFDT continuent de protester contre la réforme ferroviaire promulguée il y a un an. Elle prévoit l'ouverture à la concurrence du transport de passagers en décembre. Peu de perturbations, cela dit, sont attendues. Enfin, il n'y a plus de Français à Roland-Garros, Benoît Paire également sont tous les deux été battus hier. On suivra aujourd'hui le duel Federer-Wawrinka.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce 4 juin. L'actualité, c'est aussi le congrès national du syndicat Jeunes Agriculteurs qui débute aujourd'hui à Rouen. Thème de cette rencontre, jeunesse et ruralité. Aujourd'hui en France, 6,5% de la population agricole a moins de 35 ans. Comment attirer les jeunes dans les territoires ruraux? Peut-on encore devenir agriculteur dans notre pays? Quelles sont les principales difficultés? Bonjour Arnaud Gaillot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes agriculteur dans le Doubs et secrétaire général des jeunes agriculteurs. Vous serez dans quelques heures à Rouen pour ce congrès réunissant 800 jeunes comme vous. Alors d'abord, ce métier, c'est un choix de votre part ou vous avez repris l'exploitation familiale?
Pour moi, c'est un choix. Alors, mon père est agriculteur, mais je ne me suis pas installé sur l'exploitation. Il avait quitté il y a quelques années. Donc c'était vraiment un choix et par passion aussi.
Et quel est le profil type d'un jeune agriculteur aujourd'hui en France? Est-ce qu'il y a plus de femmes parmi vous, par exemple?
On commence à avoir vraiment une variété des installations. Le taux de féminisation, je crois, en 2018, est autour de 21% d'installés. On a 34% environ des jeunes qui sont hors du cadre familial. Donc, on a vraiment une grande diversification par rapport aux années d'avant.
Eva?
Qu'est-ce qui les attire dans ce métier?
Moi, je pense que c'est le côté travail avec l'être vivant. Et je pense aussi la passion, parce que c'est un métier qui a une grosse part de passion pour le faire.
Quoi. Et il y a aussi les mauvais côtés, on le sait. Quels sont les principaux problèmes aujourd'hui du jeune agriculteur?
J'ai envie de dire qu'ils sont variés, heureusement qu'il y en a des bons, mais ça peut être les attaques incessantes contre le monde agricole, avec le ministre qui a pris la parole quand même à l'Assemblée nationale en disant que ça suffisait, parce que je pense qu'il y a pas beaucoup de secteurs d'activité à l'heure actuelle qui subissent autant d'attaques. Ça peut être les jeunes qui viennent de s'installer, qui vendent pas leurs produits au prix qu'ils devraient. J'ai envie de dire que les comptes en banque, ils tiennent pas longtemps. En 2019, à l'aube de 2020, c'est quand même intolérable que des gens qui travaillent tous les jours comme tous ne puissent pas se verser un salaire au moins du SMIC. Quoi.
Ces difficultés que vous rencontrez, ce sont celles que rencontrent aussi vos aînés. Est-ce qu'il y a une solidarité intergénérationnelle face à ces problématiques?
Oui, il y a une solidarité et on le voit. Hein, si on prend une image des actions syndicales, quand il y a besoin, on voit que les tranches d'âge sont représentées. Après, c'est pour ça aussi qu'on travaille sur la transmission pour faciliter aux jeunes par les anciens, parce que quand même nos anciens sont des puits de savoir, sont la culture et donc il faut arriver à corréler tout ça pour que ça se passe du mieux possible.
Comment vous réagissez aux nouvelles mesures environnementales, comme je pense à l'interdiction du glyphosate par exemple? Est-ce que votre génération elle est plus sensible à ces problématiques?
J'ai envie de dire que personne ne peut être insensible à ça, et nous les premiers, parce que la planète est notre outil de travail, et demain, si on veut transmettre notre outil de travail à nos enfants, il faut qu'on en prenne soin, et c'est pour ça qu'on s'en est toujours soucié. Après, sur ce point-là, la position de jeunes agriculteurs est très claire, c'est de dire « ok, si on les arrête, par contre, il faut que ça soit européen, et que tous les produits qui rentrent en France alimentaire n'utilisent pas ces substances-là ».
Alors, autre problème, entre guillemets, auquel vous êtes confronté, les Français réclament une alimentation toujours plus saine, toujours plus locale. Ça, ce sont des défis positifs ou est-ce que ça rajoute des contraintes à votre profession ?
Non, parce que je pense que l'agriculture française est une des plus durables, elle a été reconnue. Je pense que le défi, il est celui aussi du gouvernement, c'est le pouvoir d'achat. Parce que qui dit plus de normes, qui dit plus de responsabilité, qui dit plus de temps, dit, ben, in fine, un coût d'aliment qui revient plus cher aux consommateurs.
Eva ?
Comment va se dérouler ce congrès aujourd'hui à Rouen ? C'est extrêmement important pour votre profession ?
Bah oui, parce que c'est quand même le moment où fait le retour sur les activités de l'année écoulée, sur les débats, voilà, et la table ronde le jeudi avec la venue du ministre qui est toujours un moment fort du réseau.
Si vous deviez aujourd'hui à ce micro lui poser une question, ce serait laquelle ?
Bon, ben celle, je pense, qui revient le plus à l'heure actuelle comme ça serait au niveau du soutien par rapport aux intrusions et aux attaques incessantes contre les exploitations. On ne peut pas laisser des gens rentrer comme ça. Enfin, moi, je ne rentre pas chez les gens comme ça parce que j'ai envie, quoi.
Vous parlez de qui ? Des anti-végans ?
Oui, des activistes, que ce soit Boucher Abolition, que ce soit L214. Et à un moment donné, stop, quoi.
Mais ces interventions, elles sont récurrentes ? Ça arrive souvent ?
Ben, c'est continuellement. Il y a une vidéo qui sort, il y a des intrusions. Et au-delà de ça, nous, ce qu'on dit, c'est que le problème, c'est qu'il y a des règles sanitaires pour garantir la sécurité des animaux dans les élevages. Et on peut pas... Enfin, dernièrement, ils ont fait une intrusion dans un élevage de dindes. C'est plus de 1500 dindes qui sont morts étouffées. Donc, je veux dire, ils se rendent pas compte du danger qu'ils font courir aux animaux, quoi.
Merci Arnaud Gaillot d'être venu ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes secrétaire général des jeunes agriculteurs. Bon congrès à vous à Rouen.
Merci.
Europe 1, mais il est 6h25, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec le journal du prodigieux David Doucan, puis la météo avec un temps très lourd et même des orages qui arrivent par le nord-ouest.
Il est 6h28, Mathieu Noël.
Juste avant votre journal, on fait un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Un ciel orageux pour le nord-ouest du pays.
Oui, ciel bien nuageux. Déjà ce matin, du Poitou-Charentes aux côtes de la Manche, en passant par l'ouest du bassin parisien, avec localement des orages. Pour les autres, un ciel beaucoup plus clément, avec déjà du soleil, un petit peu plus de nuages sur les côtes du Roussillon et du Var. Les nuages vont gagner du terrain. Les orages deviendront plus forts avec de la grêle, de bonnes rafales de vent de la Touraine à l'Île-de-France jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Cet après-midi, le ciel va rester nuageux sur la Bretagne et le Cotentin, mais là plus sec. Et puis, pour les autres, à part un petit peu d'instabilité sur les côtes basques ou encore les Alpes-Maritimes, on pourra avoir un coup de tonnerre. Le ciel sera ensoleillé avec un petit peu de vent.
Les températures, elles grimpent.
Oui, ce qui explique ce temps lourd et ces orages, puisque cet après-midi, à part sur le nord-ouest, hein, après le passage pluvieux où la moyenne ira de 18 à 23 degrés, il fera très chaud, 26 à 34 degrés. On attend 29 degrés à Paris, 30 à Montélimar, 31 à Bourges et à Agen, 33 à Lyon, 34 pour Clermont-Ferrand et Besançon. Ce matin, c'est déjà très doux, hein, 12 à 19 degrés, il en fait 16 à Paris. Et notez que demain, après ce passage orageux, les températures repartent à la baisse sur une partie ouest. 29 à Paris cet après-midi, il en fera 18 demain.
Merci Céline.
Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui mêle info et bonne humeur pour flatter votre cerveau autant que vos zygomatiques. À suivre, trois cerveaux justement. Épatante cervelle qu'ici on appelle les trois fantastiques, politique, économie, médias. Chaque matin, ils vous livrent leur vision de l'actualité. Aujourd'hui au programme politique avec le chantier de reconstruction titanesque qui attend les Républicains. Et Axel de Tarlé nous donnera des nouvelles du Boeing 737 Max. Elles ne sont pas rassurantes. Mais d'abord, pour l'info avec un grand I, un journaliste avec un double D, David Doucan. Hier, sous l'œil admiratif de Céline, il a encore marqué des points dans la course au prix Albert Londres avec des teasings percutants.
Qu'est-ce qu'un bon neuf maillot ? Vous le saurez à la fin de ce journal.
Ah oui ?
Ah,
j'ai hâte de savoir. Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. Mathieu Noël.
Et voici le journal de 6h30, présenté donc par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Mais à qui appartient donc le Riad de Marrakech ? Patrick Balkany nie toujours en être le propriétaire. Il a toutefois reconnu à l'audience hier l'avoir visité, choisi, meublé, mais pour quelqu'un d'autre. Compte rendu dans un instant. Après les élections européennes, voici le temps des municipales. Le parti du président met la pression sur les maires sortants de droite. Ce sera avec ou contre Macron. Et puis les champions du monde 2018 vont recevoir la Légion d'honneur. Vous entendrez l'humilité de Didier Deschamps. Il se demande si lui et ses hommes la méritent vraiment.
Europe 1.
Le procès Balkany, quatrième semaine, le maire de Levallois est poursuivi entre autres pour blanchiment et corruption. Au cœur des débats, le fameux riad de Marrakech, Patrick Balkany se défend, bec et ongle, il maintient que la demeure ne lui appartient pas, Salomé Legrand.
Il s'agissait en fait d'une opération secrète menée pour le compte d'un riche Saoudien menacé de mort dans son pays. Toujours prolixe et tonitruant, Patrick Balkany a reconnu pour la première fois hier avoir visité, choisi et même meublé le riad à Marrakech, mais pas pour lui, pour Mohamed Al-Jaber, le magnat de l'immobilier qui devait investir dans un gros chantier à Levallois. Afin de le retenir dans l'opération, Patrick Balkany aurait cédé, je cite, à son caprice. « Vous savez, les princes arabes sont connus pour ça », dit-il. Alors, pourquoi la villa s'appelle-t-elle Juicy, comme Julia et Lucie, ses deux petits-enfants? À l'ouverture du procès, le maire promettait d'expliquer ce nom. Finalement, il ne sait pas. C'est peut-être un anglicisme juice, jus de fruits. Vous savez, là-bas, il y a des oranges partout. Appelé à la barre, le supposé propriétaire a répliqué très ironique « Je remercie Monsieur Balkany, grâce à qui je suis toujours en vie », et de se tourner vers lui « Je ne suis pas allé au Maroc depuis plus de 20 ans ».
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Bug informatique, le site internet des impôts a craqué sous l'énorme affluence de contribuables qui ont voulu déclarer leurs revenus hier soir. Le ministre des Comptes publics a annoncé un délai supplémentaire jusqu'à jeudi minuit. Gérald Darmanin, dans un tweet, a semblé regretter que nous soyons si nombreux à nous acquitter de cette démarche au dernier moment. Il a accompagné son message d'un hashtag « Administration ». Bienveillante. Les résultats des élections européennes et leur impact sur la prochaine échéance, les municipales de 2020. La République En Marche met la pression sur les maires sortants de droite. Ce sera avec ou contre Emmanuel Macron, à eux de se positionner et vite, si possible. Virginie Riva.
Surfer sur la débâcle des Républicains, c'est l'objectif de l'aile droite de la majorité. À la manœuvre, l'ex-dirigeant de l'UMP est désormais conseiller à l'Élysée, Jérôme Peyra, mais aussi Matignon, en collaboration avec les ministres Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu. Leur coup de fil au maire s'intensifie depuis dimanche, l'idée, tendre la main aux maires Macron compatibles en leur demandant une clarification de leur ligne politique. Ils essaient en ce moment de comprendre la porte d'entrée, explique un cadre d'En Marche à la manœuvre. Le préalable, c'est de quitter les Républicains. La suite est plus floue. Certains au sein de la majorité voudraient qu'ils adhèrent directement à La République En Marche ou à minima à Agir, parti de centre-droit allié à Emmanuel Macron. Le président souhaite qu'ils arrêtent de tergiverser et qu'ils viennent maintenant, rapporte un cadre de la majorité. D'autres aimeraient mettre en place une plateforme d'accueil des élus de droite pour leur faciliter leur transfert, notamment pour ceux qui ont une majorité municipale plus réticente.
Mais c'est dans ce contexte que se déroulera aujourd'hui l'initiative de Gérard Larcher pour essayer de rassembler la droite et le centre après la démission de Laurent Wauquiez. Le président du Sénat reçoit dans un hôtel parisien plusieurs hiérarques de la droite pour essayer de poser les fondations d'une reconstruction. Les cheminots manifestent aujourd'hui, journée d'action à l'appel de 4 syndicats représentatifs à la SNCF. Ils protestent contre la réforme pourtant promulguée il y a déjà un an. Ils fustigent un rouleau compresseur, je cite, source de régression sociale, et mettent en garde contre la souffrance au travail au sein de l'entreprise.
À suivre dans ce journal, l'alliance Fiat-Renault a-t-elle du plomb dans l'aile? Conseil d'administration décisif du constructeur français cet après-midi. À tout de suite.
Il est 6h34. Europe 1. Il est 6h36, Mathieu Noël.
La suite du journal David Decan. Il y a eu quelques tensions ces derniers jours entre Renault et Fiat.
Oui, cela arrive, des tensions lorsqu'on prépare un mariage. Mais on y verra plus clair aujourd'hui, puisque les actionnaires de Renault se réunissent en conseil d'administration pour dire si oui ou non ils poursuivent les discussions. Emmanuel Dutheil.
Les bandes ne seront pas publiées ce soir entre Renault et Fiat, mais sauf énorme surprise, Renault va accepter de discuter de façon encore plus approfondie avec Fiat. Le but, sceller le meilleur contrat de mariage possible. Bercy a très peu apprécié la position de Fiat qui a laissé entendre en fin de semaine « C'est notre proposition et rien d'autre ». Bruno Le Maire a eu l'occasion de le dire directement au patron du groupe Fiat, John Elkann. Les deux hommes se sont eus plusieurs fois au téléphone, ils se sont même rencontrés ce week-end. L'État français veut des assurances sur la pérennité des emplois et des usines Renault en France. Il veut être certain que c'est bien un mariage d'égal à égal et surtout, il veut que Fiat paie pour cela le bon prix. Dans le camp italien, on se montre moins fermé que ces derniers jours. Nous avons fait une proposition certes ferme, mais dont certains éléments peuvent être bien évidemment discutés, disent-ils. Les discussions en vont encore durer quelques semaines et dans tous les cas, si les deux devaient décider de se marier, cette fusion ne serait pas effective avant au moins un an.
Emmanuel Duteil, le chef du service France d'Europe. C'est une idée reçue, battue en brèche ce matin. La France est plus compétitive que l'Allemagne, selon le dernier baromètre du cabinet Ernst & Young. Notre pays est deuxième au classement des États européens les plus attractifs aux yeux des investisseurs internationaux, derrière le Royaume-Uni qui est premier, mais donc devant l'Allemagne, troisième. La visite d'État de Donald Trump au Royaume-Uni, il a dîné hier soir avec la reine d'Angleterre. Il rencontre aujourd'hui Theresa May, après avoir descendu en flammes dans la presse sa gestion du Brexit. La première ministre démissionnera d'ailleurs, vous le savez, vendredi. Elle assurera toutefois la transition jusqu'à ce qu'un nouveau chef de gouvernement soit choisi. Le président américain a donné son avis sur la question. Il juge que l'eurosceptique Boris Johnson ferait un excellent Premier ministre. Ils ont gagné la Coupe du Monde en juillet dernier. Ils sont 23 joueurs. Ils sont bleus et portent deux étoiles sur le maillot. Le président de la République...
C'est les bleus.
Oui, bravo.
J'ai trouvé.
Oui, vous êtes de plus en plus fort en actu.
Bah, je progresse.
On le constate. Le président de la République va leur remettre la Légion d'honneur cet après-midi. Leur entraîneur l'a déjà, la Légion d'honneur. Didier Deschamps l'avait reçue après la victoire de 98. Il va donc passer du rang de chevalier à celui d'officier. Mais écoutez, l'humilité du coach au micro de Cyril de la Morinerie.
C'est un privilège, même si je l'avais dit la première fois, il y a un peu plus de 20 ans quand ça m'était arrivé. Est-ce que sincèrement, par rapport à ce qu'on fait dans le football et dans le sport, est-ce qu'on la mérite par rapport à d'autres personnes qui font tellement de choses importantes, sauver des vies et tout ça? Donc je ne vais pas dire que là, nous ne la méritons pas. C'est un privilège, un honneur, c'est la République. C'est d'être reçu à l'Élysée par le président Macron. Et on aura ce privilège de vivre ça avec nos familles et nos proches.
Didier Deschamps avec Cyril de la Morinerie pour Europe 1. C'est pas vous qui aurez, Mathieu, une telle humilité si on vous remet une médaille.
Ah, moi, je la prends, moi.
Vous la prenez, oui. Il y a plus de Français. Il n'y a plus.
Eh oui, parce qu'il n'y a pas plus de Français.
Non, il n'y en a plus. Des Français à Roland-Garros. Après l'élimination en huitième de finale de Benoît Paire-Gaël et Monfils, c'était hier. Et aujourd'hui, au programme, en quart, le choc des Suisses. Stan Wawrinka contre Roger Federer.
Merci, c'était le journal de David Doucan, un journaliste qui chaque matin, par sa modernité radicale, nous propulse vers le futur. Ah, à discuter avec lui, qu'il semble loin, ce siècle arriéré où nous sommes nés et où les hommes, qu'on appelait d'ailleurs les bonhommes, ne pensaient qu'aux bagnoles. Alors que nous, David, hein...
Ceci dit, il y a des belles Peugeot. Hein. Non, mais j'ai vu aujourd'hui une 508 Sport.
Oui, la 508, là, elle est jolie, hein. Belle ligne.
Elle est agressive, quoi.
Qui ça?
La 508 Sport.
Ah, après, vous parlez de footballeuse?
Non.
On parlait bagnole, non, Céline. Pendant qu'avec David, on se jette un petit blanc en lisant Sport Auto, ouais. Ça vous ennuie de donner la météo? Parce qu'avec David, on se demandait, on décapote la Simca cet après-midi ou pas?
Ah, bah, regardez, regardez. Est-ce qu'on décapote?
Les orages par le nord-ouest. On n'ira pas sur le nord-ouest alors.
Non, mais on est un petit peu concerné.
Mais bien sûr, David.
C'est plus autorisé.
Mais bien sûr, non.
Oui, alors non, il va s'énerver. Dès ce matin, des orages hein, qui sont présents des pays de la Loire à Cotentin. Ils vont se décaler, devenir plus forts avec localement de la grêle cet après-midi de la région Centre-Hauts-de-France en passant par la région parisienne. Donc on évite les décapotables et pour les autres, encore du soleil. Des températures chaudes, 26 à 34 degrés, un petit peu moins dans le nord-ouest avec 18 à 23 degrés.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À suivre, les trois fantastiques. Politique, économie, médias, l'actu est une jungle dans laquelle il vous aide à y voir plus clair. Aujourd'hui au programme, un documentaire poignant sur France 5 avec Eva Rock, des Républicains en pleine reconstruction avec Aurélie Herbemont et Axel de Tarlet qui tirera à nouveau la sonnette d'alarme à propos du Boeing 737 MAX.
Comme un avion sans air.
Ouais, mais décidément de déboire en déboire, hein, ce pauvre petit avion.
Il est 6h41, bon réveil. Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
C'est une idée reçue, battue en brèche ce matin. La France est plus compétitive que l'Allemagne. Selon le dernier baromètre du cabinet Ernst & Young, notre pays est deuxième au classement des États européens les plus attractifs aux yeux des investisseurs internationaux, derrière le Royaume-Uni qui est premier, mais donc devant l'Allemagne, troisième. Les cheminots manifestent aujourd'hui, journée d'action à l'appel de 4 syndicats représentatifs à la SNCF. Ils protestent contre la réforme, pourtant promulguée il y a déjà un an. Ils fustigent, je cite, un rouleau compresseur, source de régression sociale, et mettent en garde contre la souffrance au travail au sein de l'entreprise. Enfin, il n'y a plus de Français à Roland-Garros après l'élimination en huitième de finale de Benoît Paire et Gaël Monfils. Au programme aujourd'hui en quart, le choc des Suisses, Stan Wawrinka contre Roger Federer.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Ils sont trois éditorialistes hors pair et lorsqu'ils sont réunis avec Céline, on a envie de crier
« You make me feel »
C'est peut-être pas une très bonne idée d'ailleurs. Voici les trois fantastiques. Eva Rock pour les médias, Aurélie Herbemont pour la polémique. Oh mon Dieu, le lapsus. Pour la politique. Axel de Tarlé pour l'économie. Ce matin, une fois de plus, j'avais envie de donner sa chance à Céline qui brûle, vous le savez, d'intégrer le prestigieux cercle des fantastiques. Ah bon, allez Céline, une analyse de la démission de Laurent Wauquiez.
Qui sous Laurent Wauquiez?
Oui, bon, alors, merci. Aurélie Herbemont, puisqu'on démarre par la politique, je me tourne plutôt vers vous. Après la démission donc de Laurent Wauquiez, la droite cherche à s'organiser. Est-ce que ça avance, Aurélie?
Alors, ça téléphone surtout. Ah, oui. La droite est en ligne. Tout le monde consulte. Députés, sénateurs, Baroin, Pécresse, Bertrand, Retailleau, Pelletier. Et si Nicolas Sarkozy ne veut surtout pas entrer dans la danse, il est, selon ses amis, préoccupé, attentif, voire dépité de ce qui se passe. Trois sujets, en fait, au moins, ne se sont pas envolés avec Laurent Wauquiez. Un, est-ce que la marque LR est morte ou pas? En clair, faut-il créer un nouveau parti? Deux, quelle est la ligne? Trois, qui pour l'incarner? Résultat, presque autant de réponses que de personnes interrogées. Un élément se dégage quand même. Une nouvelle élection dans 2 mois, selon les statuts. Donc en août, ça n'est pas l'idée. Mieux vaut ne pas se précipiter. Et puis il y a un quatrième sujet, les municipales. C'est dans 9 mois. Résumé d'un élu, on peut s'en sortir ou disparaître.
Et c'est à ce sujet que Gérard Larcher consacre une réunion cet après-midi.
Oui, avec les présidents des associations d'élus, les présidents de région, sans Xavier Bertrand, mais avec Laurent Wauquiez, patron d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui viendra. Une question centrale au menu, les alliances. Côté centriste, bien sûr, viser les 2% de l'UDI, ça c'est de l'élargissement, ironise un ténor. Pour le reste, il y aura débat. Certains tiennent à une troisième voie, entre en marche et le RN, et veulent redonner envie aux élus de prendre l'étiquette du parti de droite. D'autres le disent sans détour. La question d'alliance locale avec En Marche se posera forcément.
Merci beaucoup Aurélie Herbemont pour cet éclairage politique et on passe maintenant à l'économie avec vous, mon cher Axel de Tarlé. Du plomb dans l'aile, Boeing alerte les compagnies que les ailes de plusieurs de ces 737, l'avion fétiche, présentent un risque majeur au décollage et à l'atterrissage.
Oui, c'est ce qui s'appelle la loi des séries parce que ce nouveau problème donc, n'a rien à voir avec le logiciel de bord, vous savez, qui serait incriminé sur les deux crashs précédents. Non, là on parle d'un nouveau problème, donc ce sont les ailes, des ailes qui sont censées s'ajuster au décollage et à l'atterrissage pour avoir une meilleure prise de vent.
Alors là, sur europe1.fr, vous êtes sur vidéo, et nous avons Axel de Tarlé qui nous mime, n'est-ce pas, l'incidence des ailes qui montent et qui descendent. Alors, c'est ça, la précision Europe 1.
Sauf que là, il y a un lot de pièces défectueuses venant d'un fournisseur. Alors pour l'instant, aucun incident n'a été reporté, mais enfin, ce lot de pièces défectueuses équipe plus de 300 avions 737, dont effectivement des 737 MAX, qui de toute façon, eux, sont cloués au sol, donc ils ne risquent plus de mal atterrir ou mal décoller. Mais enfin, il y a quand même encore des 737 en vol qui sont équipés de ces pièces défectueuses, donc Boeing a prévenu les compagnies propriétaires pour qu'elles fassent le nécessaire.
C'est quand même extrêmement inquiétant pour Boeing, c'est un problème de sécurité, là.
Alors justement, d'abord, ce qui est rassurant, là, c'est que c'est l'autorité de contrôle, donc la FAA, la Federal Aviation Administration, qui était à l'initiative et qui a déniché ce problème, parce que jusqu'à présent, on lui reprochait d'être passive. En gros, elle avait complètement sous-traité les contrôles à Boeing. Donc Boeing s'auto-contrôlait. Et puis deuxième chose, vous avez raison, il y a peut-être eu du relâchement, et visiblement il y en a eu dans les procédures et aussi dans le contrôle qualité, alors à la fois sur la fabrication de l'avion mais sur les pièces fournisseurs, parce que là en l'occurrence pour les ailes ce sont des pièces fournisseurs. Oui, Boeing a sûrement privilégié le gain de temps et l'argent dans sa course face à Airbus. Est-ce que ça veut dire que c'est une bonne nouvelle pour Airbus? Pas forcément, parce qu'Airbus de toute façon n'a rien à prouver et a un carnet de commandes plein. Non, ce serait plutôt une bonne nouvelle pour les Chinois, vous savez, qui essayent de se faire une place et qui justement pourraient bénéficier de la perte de crédibilité du géant américain.
Merci beaucoup Axel de Tarlé. Varoc, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir?
Rencontre avec mon agresseur. C'est sur France 5 à 20h55. C'est un documentaire qui est produit par Mélissa Torio, réalisé par Maïner Bideguin, qui a choisi de raconter son histoire. À l'âge de 7 ans, elle a été violée et 33 ans plus tard, elle décide de rencontrer son agresseur dans le cadre d'une procédure de justice restaurative. C'est un processus qui est récent en France et qui est inscrit dans la loi en 2014. L'objectif en fait est de rencontrer son agresseur. Rencontre longuement préparée pendant plus d'un an grâce à une médiatrice. Et Mayana a enregistré 7 entretiens avec l'accord de son agresseur qui est aujourd'hui libre.
J'en suis désolé, j'étais un jeune homme et tu n'as aucune forme de responsabilité. C'est-à-dire que j'ai réellement profité de cet instant où tu es une petite fille sans aucune défense. C'est-à-dire que tu ne te reproches pas de n'être pas défendue.
T'inquiète pas par rapport à ça, je ne me reproche rien. Mais qu'est-ce qui fait, parce que tu dis, je comprends bien, j'entends
tes regrets. Je te remercie de les exprimer.
Je te demande pas de me pardonner, juste d'entendre que je suis complètement désolée.
Ça ne me suffit pas pour le moment, tes explications.
D'accord.
Je suis déjà bien contente que tu sois là.
Documentaire très fort, tellement la démarche de Mayana est rare. Le premier entretien a donc été enregistré, le second a été filmé, tout en respectant évidemment l'anonymat de l'agresseur. Mais au-delà de cette démarche personnelle qui est à l'origine du film, l'autre atout est aussi l'enquête que Mayana mène, notamment au Québec, auprès de victimes et aussi d'agresseurs, pour comprendre en fait l'apport de cette justice qu'on dit réparatrice. C'est le terme qui est utilisé au Québec. Justice qui a fait ses preuves, parce que notamment le taux de récidive diminue fortement. Et puis les victimes trouvent aussi dans cette démarche une forme de thérapie. Enquêter sur ce sujet tout en étant victime, il y avait de quoi être troublé, mais il serait injuste de lui faire un procès d'intention sur ce thème parce que Mayana assume ses doutes, ses interrogations devant la caméra, démarche d'une grande honnêteté intellectuelle et qui offre un documentaire inédit et étonnant à voir sur France 5 à 20h55.
Merci beaucoup Eva Rock pour ce choix télé. Merci Aurélie Herbemont, Axel de Tarlet. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain aux alentours de 7h moins le quart.
5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains, c'est bientôt terminé, mais le meilleur reste à venir, le débrief de la matinale de Nico Salegas, où vous retrouverez l'inoxydable Axel de Tarlet pour des moments passionnants et d'autres, comment dire, un peu moins passionnants.
Monsieur de Tarlet, monsieur Tarlet, pardonnez-moi.
Non, de Tarlet.
Et quand est-ce qu'on dit Axel ?
C'est les Tarlet. On dit je vais dîner chez les Tarlet, mais chez monsieur de Tarlet.
Et quand je dis dans un instant apathie Tarlet, pas de Tarlet en fait, c'est ça. Bon, bref.
Oui, bref. Allez, on a gagné une auditrice, Nadine de Rothschild. On progresse doucement. Le débrief de la matinale de Nico, ça suit.
Un très bon réveil, il est 6h52. Il est 6h55, Mathieu Noël.
Debout les copains s'apprête à baisser le rideau. Enfin, pardonnez-moi, je réalise en le disant que l'expression « baisser le rideau » n'est pas en phase avec la politique de modernisation voulue par la direction d'Europe 1. Mais comme dirait Nikos, Debout les copains se termine, mais...
On reste branché, comme on disait dans les années 80.
Car oui, la matinale de Nikos arrive précédée de son traditionnel débrief. Or, première chose qui frappe en cette fin de saison, chers auditeurs, c'est la manière dont Nikos n'en a plus rien à faire de votre avis. Jadis si soucieux de vous faire plaisir, désormais, il y va franco.
Aujourd'hui, c'est la Saint-Kevin, je voulais vous le dire, et c'est comme ça.
Et c'est pas autrement. Et si ça vous plaît ou pas, on s'en fout, même tarif. Mais difficile de critiquer Nikos, tant son abnégation au quotidien mérite un respect infini. Car n'oublions jamais que présenter une matinale, c'est encaisser une énorme pression, se lever à pas d'heure, et surtout, surtout, travailler avec Céline Dacosta. Le rossignol portugais qui, persuadé que par un piston de dernière minute, elle pourra participer à la finale de The Voice, tente le tout pour le tout afin d'attirer l'attention de Nikos. Tous les moyens sont bons, mais vraiment tous.
J'aime tout dans la maison. J'aime tout ce que je veux.
Tu chantes des pubs.
Ouais, écoute, à la fin, il est vachement bien.
En bleu.
Je vais te laisser. Bonne journée quand même.
Heureusement, pour compenser un peu le caractère fantasque de Céline Dacosta, Nikos peut toujours compter sur le professionnalisme de Laurent Cabrol. Le professionnel de la météo qui, en 35 ans de métier, a appris 2-3 combines pour toujours retomber sur ses pieds lorsqu'il perd le fil. Sa technique la plus rodée, lorsqu'il n'arrive pas à prononcer une température trop compliquée dans une ville, donner une autre température dans une autre ville et miser sur le fait que personne ne se rendra compte de la supercherie vu que personne ne savait de quelle ville il comptait parler à la base. Démonstration hier, n'arrivant pas à dire 13 degrés, il a habilement changé son fusil d'épaule.
Les températures maximales, très 20 camps.
Il a regardé n'importe quelle ville sur la carte, la 20 à Caen, c'était
métier,
emballé,
grand métier.
Emballé, c'est pesé. Et oui, Lolo retombe toujours sur ses pieds, pas dans la même ville, mais on s'en fout. Et c'est bien là l'essentiel pour la fluidité de notre antenne, une fluidité à laquelle nuit, parfois, disons-le, le trop précis Nicolas Barré, dont l'édito économique, qui entre parfois dans un luxe de détails vertigineux pour qui n'a pas fait HEC, laisse dubitatif Nikos. Heureusement, avec le sens de la pédagogie qu'on lui connaît et son sens de la synthèse, Nikos intervient parfois pour nous livrer de l'économie une version plus simple.
Les investisseurs internationaux n'ont jamais été aussi inquiets au point qu'ils préfèrent prêter leur argent à des taux négatifs plutôt que d'investir 13 000 milliards de dollars. Vous avez les symptômes d'une crise qui ne ressemble pas à celle de 2008, mais qui peut être tout aussi grave.
Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire ce matin, Nicolas Barré ? Ça va péter ?
Ah ben voilà ! Là, c'est plus clair ! Répondez simplement aux questions, Barré ! C'est quand même pas compliqué.
Ah
voilà, avec Nico, c'est plus simple.
Bah voilà, je décode, je suis là pour ça, comme vous.
Je vous en remercie.
Vous ne décodez pas, vous allez chercher la bête et vous le faites avec talent tous les matins. Merci Mathieu Noël, et bonne journée, Eva Rock.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.